Les causes. Et on veut une explication. Ce n'est pas tout à fait l'optique ou la perception biblique. Elle opte pour un autre principe, pas celui de la causalité, mais celui de ce qu'on pourrait appeler l'immanence. Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? Et qu'est-ce que nous sommes en train de vivre dans un rapport avec Dieu, puisque Dieu est à l'origine de la réalité et qu'il est vivant dans cette réalité. Mais quand nous regardons un peu la Bible, nous voyons qu'il y a toujours d'abord dans l'écriture de ces textes, ils étaient écrits bien sûr par les scribes de la cour royale, on peut le comprendre, on voulait légitimer le pouvoir en place. Donc on s'occupait surtout des grands, ceux qui ont vraiment le pouvoir. Ça, c'était la première écriture de la Bible. Les prophètes sont venus. Et les prophètes avaient un peu une autre optique. Car les prophètes sont toujours une instance critique de la royauté. Est-ce que le roi agit vraiment selon l'alliance? Et donc, ils ouvraient les yeux et les oreilles de leurs auditeurs aux pauvres, aux veuves, aux orphelins, aux immigrants. C'était plutôt l'intérêt des petits. Puis, après l'exil, c'est-à-dire après cette déflagration qui a déporté le peuple à Babylone, comme après la Shoah d'ailleurs, on se pose la question, comment maintenant engager un avenir? Que signifie donner la vie pour continuer à engendrer? Et on peut bien se poser cette question quand on vit un moment de persécution, un moment de difficulté. On ne sait pas si nos enfants pourront continuer à vivre ce que nous avons vécu. Et donc, petit à petit, à travers cet apocalypse, nous avons repassé l'histoire d'Israël, mais toujours sur fond d'histoire humaine. Nous sommes partis d'une situation bien concrète, la situation des sept églises d'Asie mineure, dans laquelle il y avait du péché, des erreurs, de l'idolâtrie, et aussi de la persécution. Et puis, nous avons regardé un peu dans les chapitres 1 à 4, l'espace où l'humanité se déploie, nous avons perçu avec les quatre cavaliers et les quatre chevaux, la violence, la famine, la maladie, la mort, c'est le lot de toute humanité depuis qu'elle existe et ça continue. Et puis, nous avons vu au cinquième saut, nous avons vu les égorgés de l'histoire humaine, qui était vraiment et qui reste une histoire de violence, l'histoire humaine. Il y en a qui écopent, il y en a qui paient pour les autres. Et alors, au sixième saut, c'est la colère de Dieu et de l'agneau qui nous est apparue, c'est-à-dire le moment où Israël se trouve face à Dieu, au-delà des images qu'elle se fait de lui. Et nous avons vu que les saints ou les martyrs sont marqués du sceau de Dieu. Et ces saints sont en quelque sorte l'âme de toute l'histoire. Ils vivent aussi ce qu'ils vivent et cet attachement au Seigneur pour les autres. Et puis, nous arrivons petit à petit avec les chapitres 8 à 11, nous sommes arrivés au fond, à une histoire plus récente, c'est-à-dire celle du premier siècle, celle de la persécution elle-même. On nous a parlé du crucifié, des deux témoins, de la destruction du temple, et la sixième trompette nous annonçait un deuxième malheur. Maintenant, nous sommes passés, avec la fois passée et aujourd'hui, nous sommes passés à notre propre histoire, à l'intérieur de nous-mêmes. Car ce combat spirituel n'est pas un combat entre des forces extérieures, c'est un combat qui se passe à l'intérieur de chacune et de chacune de nos vies. Et donc cette présence de Dieu d'une part et de tous les obstacles que notre animalité Et c'est parce qu'il est important qu'on le mette à l'extérieur, qu'on le projette en quelque sorte, pour le regarder en face. Et pour se laisser apaiser par ce que nous voyons. Parce qu'il faut bien nous rendre compte que l'agneau est d'ores et déjà vainqueur. Et donc que nous le sommes en lui. Mais il faut découvrir où est cette victoire et comment nous la vivons dans une grande liberté intérieure et dans la terre. Et alors, nous verrons bien que la suite, chapitre surtout à partir du chapitre 18, 19, 20, hein, que l'avenir de l'histoire peut vraiment se profiler sous le regard de Dieu et qu'il est plein d'espérance. Mais chaque fois, on reprend toute la vérité. On n'avance pas en quelque sorte, sinon en profondeur. On découvre toujours davantage ce que signifie pour nous la mort et la résurrection de Jésus. Et donc, il ne faut pas s'étonner si on refait constamment le tour de l'histoire, la totalité de l'histoire. Il y a toujours des animaux qui symbolisent toujours notre violence et qui est une violence destructrice. Mais il y a toujours aussi la crucifixion de Jésus, fils de Dieu, qui est un gêneur, et nous le sommes souvent à sa suite, dans la mesure où nous suivons l'agneau partout où il va, comme les 144 000. Mais pour construire un avenir, il faut toujours se reporter au passé. C'est avec ce que nous sommes et ce que notre passé, notre histoire passée, a réalisé en nous, que nous sommes dans le réel. Retrouver notre passé. Et le passé nous est apparu au chapitre 12e dans cette femme qui, comme je vous l'ai dit, symbolise bien sûr et la Vierge Marie et l'Église et le peuple d'Israël et finalement toute femme et finalement l'humanité entière. Et donc, nous avons vu là l'importance de mettre un homme au monde. Je vous ai dit que c'était important, cette femme qui met un enfant au monde et devant laquelle se trouve le dragon prêt à dévorer cet enfant. Ça signifie la fragilité extrême d'une vie humaine. C'est extrêmement fragile, mais c'est aussi tellement précieux. Et réfléchissons un instant, cela veut nous dire que finalement, mettre un enfant au monde, physiquement d'abord, spirituellement aussi, parce que l'un enchaîne en graine l'autre, eh bien, c'est vraiment déjà croire en cette vie qui finalement vient de Dieu, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on le sache ou non. Et donc, c'est à partir de cette mémoire que nous pouvons avoir une ouverture sur l'avenir. La femme, c'est l'humanité qui enfante. Le dragon symbolise toute la violence qui est dans le monde, qui détruit. Mais, nous l'avons vu, la violence n'a qu'un temps. Ou bien c'est le tiers de l'humanité et de son monde qui sont balayés. Mais nous nous trouvons face à Dieu avec notre violence. C'est donc notre combat. Et j'ai fait allusion à ce moment-là à la méditation de saint Ignace dans les exercices spirituels qu'il intitule « Les deux étendards ». Et nous avons vu également que dans les deux étendards, le Christ vainqueur, l'agneau vainqueur, n'est pas sur le même pied que le dragon. L'agneau vainqueur a un auxiliaire qui est Michel. Et Michel veut dire « Michael, qui est comme Dieu ?» Il nous signale que Dieu est vraiment incomparable. On ne peut le comparer à rien du tout. Et nous avons vu que dans l'adoration de la bête, il y a une parodie de cette adoration. « Qui est comme la bête ?» Mais la bête n'est pas incomparable. La bête, on la compare. On compare une violence à une autre. Et donc, le combat n'est pas égal, heureusement d'ailleurs. Le combat vient toujours trop tard et il n'y a qu'un temps. qui est comme la bête, c'est au fond le regard, la manière de parler des obsessionnels. On est obsédé par ce qui va mal. Mais très souvent, nous le sommes. Et si nous n'étions pas, les médias se chargent bien de le faire. La violence, cependant, s'autodétruit. La violence n'a qu'un temps, parce que finalement, la violence est suicidaire. Jusque au crime que l'on appelle parfois passionnel, qui peut être rituel, comme sa maman, la maman des cinq enfants. N'est-ce pas l'histoire d'Abraham reprise? La violence s'autodétruit. Mais les acteurs du combat spirituel sont toujours là. Heureusement, c'est le combat de toujours. Non pas comme je l'entendais parfois, le combat entre le bien et le mal. Le bien et le mal sont des réalités abstraites. Le juif n'aime pas de parler abstrait. Non. Il s'agit du bien, qui est vraiment un principe. Et le mal n'est pas un principe. La Bible n'est jamais manichéenne. Et nous savons qu'Augustin aura pourfendre le manichéisme qui vivait en lui-même. Et non plus, la Bible n'est jamais gnostique. Et les gnostiques aussi séparaient le bien du mal comme deux principes antagonistes, comme s'ils étaient sur le même pied, et comme si le combat était en dehors de nous. Mais non. Et c'est Irénée qui a été le grand pourfendeur du gnosticisme. Donc, voyons que dans l'histoire de l'Église, il y a des étapes qui ont été franchies. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant qu'accéder à l'expérience de Dieu, l'incomparable? Eh bien, c'est tout simplement ne pas se faire d'image de lui. Nous en faisons nécessairement, nous avons toujours des images. Que nous tirons bien sûr de notre famille, de notre éducation, c'est sûr. Mais c'est décanter ces images, les laisser tomber. Parce que comparer, c'est toujours fabriquer une image de Dieu et de soi. Et donc c'est l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, pour l'auteur de l'Apocalypse, c'est vraiment le mensonge. C'est vraiment à côté du réel. Donc il faut traverser en quelque sorte nos images de Dieu, qui sont plusieurs bien entendu, pour nous demander, mais finalement, qui est comme Dieu? Qu'est-ce que c'est que l'incomparable? Face à Michel, le dragon est une puissance vide. La puissance du mal est une puissance vide. Elle fait du mal, elle dévore ou elle vomit. Dévorer. Ingurgiter puis régurgiter. C'est pas du réel, ça. L'accusation, oui, elle était présente. Nous avons vu que la bête accuse. C'est que le mal s'innocente en culpabilisant l'innocent. Je dis le mal, je devrais dire le mauvais, le méchant, s'innocente, mais en culpabilisant l'innocent. Et le blasphème, c'est l'arrogance. C'est celui qui veut prendre la place de Dieu. Donc nous avons d'une part Ève qui enfante au cœur de la violence et qui exprime l'espérance de l'humanité, malgré toute cette violence qui existe dans le monde. Et donc, cette méditation sur les bêtes qui règnent dans l'humanité et donc en nous aussi, nous ouvre à la liberté. Et nous allons voir ce que c'est que notre liberté. Et c'est vrai que pour ceux qui font le séminaire sur les exercices spirituels, c'est très parallèle à l'expérience que fait Ferminas au retraitant dans ces exercices spirituels. C'est vraiment une école de libération intérieure. Mais il faut, oui, que nous opérions cette libération contre toutes les espèces de réduction que nous faisons dans notre vie. Nous réduisons les choses à nous, à notre compréhension, à notre perception. Et nous devons cesser de tout rapporter à nous, pour nous rapporter au réel dont Dieu fait partie, nous-mêmes et nos frères et nos sœurs. Et c'est dans ce sens-là que nous pouvons maintenant aborder le chapitre suivant, le chapitre 14e, que l'on peut intituler, je le fais d'habitude, la victoire de l'agneau. Dans ce combat spirituel, il y a un victorieux. Et celui qui est victorieux en nous, c'est vraiment un nous. Il l'est déjà. La chose s'est passée historiquement. À charge pour nous de le vivre dans notre existence personnelle. Face aux bêtes séductrices et violentes, qui sort de la mer, elles ont un pouvoir réel, redoutable et universel. Mais que deviennent les gens qui ne cèdent pas au pouvoir de la paix? Eh bien, nous avions justement hier, dans le livre de Daniel, si vous avez vu dans la première lecture de la messe d'hier, c'était l'histoire de Nabucodonosor avec les trois jeunes gens dans la fournaise, Shadrach, Meshach et Abednego, et qui ne veulent pas adorer la statue que Nabucodonosor a fait faire de lui-même, bien entendu. Hein? Mais vous savez bien que ce n'est pas l'histoire de Nabucodonosor, elle est passée 200 ans après. Il s'agit de Antiochus IV Épiphane, qui a fait mettre la statue de Zeus sur l'esplanade du temple de Jérusalem, ce que le texte de Daniel appelle l'abomination de la désolation. Nous mettons parfois cette statue de nous-mêmes ou de toute autre idole que nous poursuivons au cœur de notre vie. Et donc, ce sont ces idoles que nous devons abattre. Ces mauvaises idées, ces mauvaises images de Dieu. Je vous lis les 5 premiers versets et je lis. Et voici, l'agneau était debout sur la montagne de Sion. Ah, c'est le plus ancien. Sur la montagne de Sion, nous sommes descendus sur la terre. Et pourquoi sommes-nous descendus sur la terre, et que signifie Sion? Nous allons voir l'auteur dont s'est inspiré Jean dans l'Apocalypse. Nous allons voir cela dans le livre Joël. Et nous lisons ceci au chapitre 3 du livre de Joël, au verset 5. Tous ceux qui invoqueront, il faut savoir ce que c'est qu'invoquer, le nom du Seigneur, seront sauvés, car sur le mont Sion, il y aura des rescapés, comme l'a dit le Seigneur, il y aura des rescapés, donc il y en a qui échappent, et à Jérusalem, des survivants que le Seigneur appelle. Il y a toujours des survivants, c'est déjà l'histoire de Noé dans l'arche. Et ces survivants sont là pour transmettre la vie, pour transmettre la foi. Et voici l'agneau était debout sur la montagne de Sion. Donc ça veut dire, dans la présence de Dieu symbolisée par l'arche de Noé déjà, dans la présence de Dieu, il y a des demeures. Et nous sommes dans le cœur de Dieu, déjà présents. Et avec lui, 144 000 qui portent son nom, voilà. Et le nom de son père écrit sur leur front. Vous avez bien perçu qu'il s'agit d'une allusion au baptême. Et j'entendis une voix venant du ciel, comme la voix des grandes eaux, et comme la voix du puissant tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de l'harpiste jouant de l'harpe. Voilà le tonnerre qui devient un doux son de l'harpe. L'harpe qui s'égrène comme ça, un note après note. Il chante un cantique nouveau devant le trône, devant les quatre animaux, ou les quatre vivants et les anciens. Donc, les quatre vivants qui symbolisent la création et les anciens qui symbolisent Israël et sans doute aussi l'Église. Et personne ne pouvait apprendre ce cantique. Sinon, les 144 000 les racheter de la terre. Ils ne peuvent, parce que ce n'est pas une réalité extérieure. Ce cantique, c'est ce que le réel fait surgir en nos cœurs. Un chant. C'est-à-dire que notre regard et notre cœur peuvent arriver à tout transformer, tout laisser transfigurer par la présence du Seigneur, par la présence de l'agneau vainqueur. Et on donne une précision sur ces 144 000, les rachetés de la terre. Ils ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés contre les hommes, comme prémisse pour Dieu et pour l'agneau. Dans leur bouche ne s'est pas trouvé de mensonge, ils sont irréprochables. De qui s'agit-il ? Souvent, dans la Bible, le prophète utilise là constamment la prostitution est toujours assimilée à l'idolâtrie, pour la bonne raison que souvent dans les temples païens, ils avaient des hirondules, des femmes qui attendaient les hommes qui voulaient avoir une sorte d'expérience vitale de la fécondité. Et c'est une allusion à cela, et c'est pour cela qu'il s'agit dans ces vierges qui ne se sont pas soumises avec des femmes. Il s'agit véritablement de ceux qui ne sont pas dans la véritable alliance, c'est-à-dire de l'idolâtrie, qui cherchent d'autres dieux que le vrai Dieu, que le Dieu vivant. Ils suivent l'agneau partout où ils vont. Ils chantent. C'est-à-dire qu'ils ont, en quelque sorte, libéré leur cœur de tout ce qui leur faisait mal. Ils peuvent laisser tout transformer en cantique. Ils ont été rachetés d'entre les hommes. Mais être racheté, c'est se laisser racheter. C'est se laisser transformer, transfigurer soi-même par la présence divine, miséricordieuse. Comme prémisse, les premiers. Ça veut dire que les autres suivront. Mais il en faut bien qu'il y en ait des chefs de file qui en donnent l'exemple. Comme prémisse pour Dieu et pour l'ami. Ce sont ceux qui ont déjà laisser leur cœur se pacifier, laisser leur vie se transfigurer par la mort et la résurrection de Jésus. Dans leur bouche, il n'est pas trouvé de mensonge. Mensonge, dans l'Apocalypse, est toujours synonyme de l'idolâtrie. L'idolâtrie est double. Elle a la langue double, le regard double. L'idolâtrie, c'est le mélange. C'est celui qui ne sait pas vraiment donner toute sa vie à Dieu. Et c'est bien sûr temporaire, nous espérons que nous y arriverons tous, mais c'est par grâce. Ce n'est pas par un effort de volonté. Et donc ce sont ces 144 000 qui symbolisent de nouveau l'humanité entière, dont on prend un petit groupe de rescapés pour dire voilà, la maquette. Les autres vont être fabriqués sur cette même maquette. Voilà donc le véritable enjeu de notre combat spirituel. C'est d'arriver à chanter avec l'agneau. C'est-à-dire à mettre notre vie en harmonisation parfaite avec cette présence de Dieu et de l'agneau vainqueur. Et à partir de là, donc c'était une manière de montrer l'adoration de Dieu qui est incomparable face aux mensonges. Ils sont irréprochables, c'est une traduction un peu approximative, le terme grec c'est amomos, qui traduit l'hébreu blimum, c'est-à-dire sans tache. Ils sont tous deux pièces d'hébreu. C'est un peu cela que ça veut traduire. Et maintenant, on va nous annoncer le jugement. Nous savons dans la Bible, depuis le début jusqu'à la fin, et l'Apocalypse ne fait pas exception, le jugement de Dieu est toujours un jugement de salut. Toujours pour nous sauver. Ce que disait tout à l'heure, hein, quand je vous l'ai cité, le petit passage de l'Épître aux Hébreux, hein, que Dieu a modifié. Je vous relis le texte exact. Que veut le Seigneur, en effet, puisque le Créateur est maître de tout, voulait avoir une multitude de fils, à conduire jusqu'à la gloire. La gloire, c'est le rayonnement d'amour. Donc il veut vraiment nous faire ses enfants. C'est le but. Mais pour que nous puissions accepter d'être et de devenir toujours davantage ses enfants, il faut nous délivrer de tous nos enfermements, de tous nos esclavages. Et nous en avons souvent beaucoup, mais nous les ignorons. Et ce sont ces obstacles qu'il faut faire sauter. Et donc nous allons maintenant assister au jugement de l'agneau. C'est donc ce jugement de salut que l'on appelle dans le texte de l'Apocalypse les coupes de la colère de Dieu. Mais pour bien comprendre ce que ça signifie, il faut que nous ayons une idée précise de ce qu'est la colère de Dieu, très différente de la colère des hommes, bien entendu. Pour nous, c'est toujours une sorte d'orgueil blessé, notre colère. Nous nous révoltons. Quelque chose qui nous blesse, qui nous fait mal. C'est vrai aussi pour Dieu. Dieu aussi se révolte quand son amour est blessé. Et son amour est blessé quand il voit que ses fils ne veulent pas être ses enfants, ne veulent pas de l'amour qu'il veut leur donner. Donc c'est l'amour blessé qui ne se résigne pas à voir dans les hommes des enfants perdus. Il ne veut pas que les hommes se perdent. Nous avons ça typiquement, précisément écrit au chapitre 18e de Saint Matthieu. Le Père ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. Se perde. Et il faut bien qu'il accepte beaucoup de ses petits, s'enferment constamment dans leurs esclavages et souffrent. Mais s'il peut accepter cela, c'est parce qu'il l'a fait historiquement et qu'il continue de le faire avec eux. Donc, si Dieu peut souffrir, c'est qu'il s'est incarné, c'est qu'il a une chair humaine et qu'il peut accepter en solidarité cette souffrance et la vivre avec chacun depuis le premier homme jusqu'au dernier. Voilà la rédemption. Nous savons que la rédemption, hein, qui se dit atonement en anglais, c'est réunir dans l'unité les enfants de Dieu dispersés, comme le dira Saint Jean. Donc, la colère de Dieu, c'est son cri d'amour. Tu m'as atteint, tu m'as blessé, tu m'as touché. Mais il ne nous dit pas ça pour nous le reprocher comme on le reproche humainement. Il nous dit pour nous exercer à le suivre et pour nous ramener à lui, s'offrant en sacrifice pour nous, en nous, pour que nous ne cédions pas à l'attrait des idoles, au pouvoir de la propagande impériale, au pouvoir, à la domination, à la richesse, au plaisir, à la préoccupation du bien-être, etc., etc., etc. On peut faire une litanie invraisemblable de nos idoles pour les faire participer à sa gloire. La kavod, la gloire en hébreu, c'est le poids de l'amour. C'est l'amour qui n'est qu'amour. Confrontation entre nous, pauvres humains limités, et l'amour en personne. Voilà le jugement de Dieu. C'est cette confrontation même, terrible, parce que nous mesurons d'une façon immédiate comme ça la distance entre lui et nous, et cependant béatifiante, parce que que nous savons très bien que nous sommes attirés par elle. Dieu assume tout notre être, la totalité de notre être, même l'obstacle qui est en nous, quitte à devoir le rejeter, comme on rejette une vidange lorsque l'on en a pris le contenu. Alors, qu'est-ce que nous allons voir dans cette annonce du jugement? Ben, des anges. Dieu n'annonce pas par lui-même, il annonce par les événements, par les courants d'idées, de pensées. Et donc, il faut des anges. Puisque les anges sont toujours les médiateurs entre Dieu et l'homme. Et je vis un autre ange. Hein, pourquoi autre? Hein, à partir de lequel? Peut-être l'ange qui a donné le 10 livres, c'est possible. Que nous avons. Il avait un évangile éternel à annoncer à ceux qui résident sur la terre. Une bonne nouvelle pour toujours, un évangile éternel. À annoncer à ceux qui résident sur la terre. Donc c'est une bonne nouvelle ce jugement. À toute nation, tribu, langue et peuple. Vous voyez bien qu'il s'agit bien de tout le monde, hein, des quatre dimensions. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, rendez-lui gloire. Nous savons que craindre Dieu, c'est vraiment découvrir la distance qui le sépare de nous et en même temps la reconnaître inaimée. Mais en gardant cette distance, c'est une distance de proximité, comme j'aime l'appeler, et rendez-lui gloire, c'est-à-dire reconnaissez ce poids de l'amour. Car elle est venue l'heure de son jugement. Adorez le Créateur du ciel, de la terre, de la mer et des sources d'eau. Donc voilà, l'annonce, c'est reconnaître la vérité, et que la vérité, c'est Dieu au milieu de ce monde, comme Créateur, Maître de tout et racheté, celui qui nous a rachetés. Un autre ange, un second, le suivit. Il dit, elle est tombée, Babylone de la Grande. Elle qui a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de sa prostitution. Babylone. Babylone, le symbole de la violence, de la domination, du pouvoir. Et c'est pourquoi c'est une prostitution. Mettre le pouvoir à la place de cette reconnaissance de Dieu dans l'humilité, c'est vraiment se prostituer. Trouver une idole au lieu de la vie. Notez que ce passage vient en toutes lettres d'Isaïe au chapitre 21. C'est l'annonce de la chute de Babylone. Babylone qui se disait invincible, qui se disait présence divine, qui est comme la bête. Voilà. Je suis Dieu et non pas homme. Voilà Babylone. C'est ce qu'on lui fait dire en tout cas. Et bien Babylone est tombée. Ou bien c'est une allusion aux cavaliers mèdes qui ont pris une première fois la ville de Babylone, ou bien ça peut être aussi une allusion au moment où les armées assyriennes qui avaient mis le siège devant Jérusalem, tout d'un coup sont parties, ont levé le siège et on ne sait pas exactement pourquoi. Peut-être qu'il y avait une peste, une épidémie dans le camp, on ne sait pas encore exactement. Un autre ange, un troisième, le suivit. Et d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, s'il reçoit la marque sur son front et ou sur sa main de la bête de qualité, ou bien éventuellement contrôler tout ce que nous avons mis sous scellé, etc. Si quelqu'un adore la bête et son image, s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, c'est-à-dire dans sa pensée ou dans son agir, hein, quand vous entendez le front et la main, vous savez bien ce que ça veut dire. Hein. Donc quand on parle de pied, il s'agit toujours de pouvoir. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Il découvrira aussi qu'il a blessé Dieu, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Hein, chapitre 8 du prophète Zacharie. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Qu'est-ce que c'est cette métaphore de la coupe? Qu'est-ce que ça vient faire, coupe? Pouvez-vous voir la coupe que je vais voir et être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Demande Jésus à Zébédée, aux deux fils de Zébédée, à Jean et Jacques, qui viennent de trouver avec leur mère pour avoir une place dans leur royaume. Est-ce que vous pouvez voir la coupe? La coupe, c'est le symbole de la vie. La vie qui est à vider, telle qu'elle est, avec ou sans poison. Vous savez bien que les empereurs aimaient bien, quand ils avaient un ennemi, à leur tendre une coupe dans laquelle il y avait du poison. Ils faisaient semblant d'y boire. Hein? Il boira du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. C'est-à-dire qu'il découvrira jusqu'à quel point il a atteint la personnalité de Dieu. Et il connaîtra les tourments dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leurs tourments monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ces deux versets sont composés d'une manière extraordinaire, comme une bague de joaillier. On revient sur le même thème. Il boit donc. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit sur son front ou sur sa main la marque, il boira du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il connaîtra les tourments dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. C'est cet affrontement, cette confrontation avec le Seigneur, avec l'agneau, avec la souffrance de l'agneau qui va nous faire permettre de découvrir la colère de Dieu. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Quelle est cette colère de Dieu? Comment nous est-elle manifestée? Regardons la croix de Jésus. Jésus crucifié. Jésus crucifié qui montre au monde que nous crucifions nos frères, nos sœurs et souvent nous-mêmes aussi. Qui est la révélation, l'apocalypse de la réalité de Dieu dans l'homme. Voilà, depuis que l'humanité existe, voilà ce que nous faisons de l'homme créé à l'image de Dieu. Nous le mutilons. C'est cette révélation-là. C'est ce que dit saint Paul dans son chapitre 1er, au verset 18, si je ne m'abuse, « Apocalypse die or getting ». Se révèle la colère de Dieu. Et il va expliquer à travers toute son épître que cette colère de Dieu se révèle dans la présence du crucifié. C'est pourquoi nous le mettons partout. Cette présence nous dit la pauvreté, la fragilité, le péché de l'homme, racheté par la victoire de l'agneau qui est passé à travers et qui continue de passer à travers nos vies pleines d'obstacles, enfermées. Et d'ailleurs, il explique, je continue, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Et j'entendis une voix qui du ciel disait, écris, pourquoi écris ton histoire? Pour partager l'expérience que nous avons faite de cette présence divine. C'est la manière dont nous vivons le témoignage. Donc, par notre paix intérieure, notre joie intérieure. Nous disons déjà, nous annonçons déjà, c'est cette bonne nouvelle, nous disons déjà la victoire de l'agneau en nos vies. Et effectivement, je continue de lire, je me suis arrêté au début du verset 13e, et c'est le refrain que vous avez entendu tout à l'heure. Heureux dès à présent ceux qui sont morts dans le Seigneur. Ceux qui ont offert leur vie, heureux dès à présent. Oui, dit l'Esprit, car c'est l'Esprit qui suscite et qui fait vivre notre foi. Oui, dit l'Esprit, ils se reposent de leur peine, car nos œuvres les suivent. Mais nos œuvres qui nous suivent, ce ne sont pas seulement ce que nous avons fait. C'est précisément la victoire que le Seigneur a déjà remportée en nous. Voilà donc le jugement de Dieu annoncé. Il est annoncé. Cette confrontation avec non plus les images de Dieu que nous nous projetons, mais avec la réalité de Dieu au-delà des images. Mais c'est le cheminement de toute notre existence de parvenir finalement à le voir, le rencontrer, tel qu'il est. Mais ce n'est pas seulement notre avenir, c'est déjà notre présent. Et de l'entendre, de le célébrer, disons simplement, de vivre la semaine pascale, de vivre la fête de Pâques, c'est précisément de trouver devant cette présence de Dieu crucifié. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux. Nous savons, je crois vous l'avoir déjà dit, nous savons que Moïse meurt dans un baiser divin. La mort, c'est vraiment ce bouche à bouche avec Dieu, cette entrée dans son amour, définitivement. Car la mort, c'est la mort de la mort. Dès que nous commençons à vivre, nous commençons à lutter contre les puissances de mort. Dans le sein de notre mère, dès que nous formons ces quelques cellules qui, pour continuer à vivre, doivent lutter contre tout ce qui pourrait les blesser. Et quand nous sortons du sein maternel, la mort continue de lutter en nous. Et nous avons besoin de manger pour vivre. Un beau jour, cette mort se commence. Nous ne mourrons plus. La vie pourra se déployer. Ça, c'est vrai physiquement. Mais c'est déjà vrai intérieurement, moralement, spirituellement et psychologiquement. C'est déjà vrai. Nous vivons de la liberté que nous a acquise notre Seigneur. Et c'est sur un peu ce que ce texte veut nous dire. Et voici une nuée blanche. Ah. Nous savons que la nuée, hein, nous avons lu l'Exode, nous savons que la nuée hein, qui précédait Israël, le peuple d'Israël traversait le désert, et Dieu se situait au-dessus de la nuée, il était assis sur sa nuée, hein, et guidait le peuple d'Israël, la manière très visuelle de voir les choses. Mais la nuée, ça nous dit sa présence divine. La présence divine qui marche devant nous. En nous, j'aimerais dire. Et voici une nuée blanche. Et sur la nuée, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Tiens, il ressemblait à un fils d'homme. Quelqu'un qui est au fond l'image de notre humanité, la présence de notre humanité, puisqu'il est sur la nuée, et que la nuée symbolise comme la colonne de présence de Dieu. Il portait sur sa tête, et voilà, il ajoute des détails pour nous permettre de l'identifier. Il portait sur sa tête une couronne d'or. Et dans sa main, une faucille tranchante, une serpette, une machette. esprit étranger. Un autre ange sortit du temple, fut là, il était seulement pour prier, un seul porte-voix. Il criait à voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure est venue de moissonner. Car la moisson de la terre est mûre. Et vous connaissez le petit texte de saint Marc, il est le seul à nous donner cette parabole. Et nous pouvons rapprocher ceci de la parabole que nous retrouvons en saint Marc au chapitre 4e. C'est la parabole du grain qui pousse tout seul. Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui aurait jeté du grain en terre. Qu'il dorme, qu'il se lève, la nuit, le jour, la semence germe et pousse. Il ne sait comment. Ça, c'est la confiance de Dieu dans la semence qu'il a jetée en nous, sa présence. D'elle-même, la terre produit et d'elle-même, elle se dit en grec, automatos, automatiquement. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis plein de blé dans l'épi. Et quand le fruit s'y prête, aussitôt, il met la faucille, parce que la moisson est à point. Chez les prophètes, et notamment chez Isaïe, la moisson et la vendange sont toujours le signe du jugement de Dieu sur les actions humaines. Pourquoi ? Mais parce que la vendange, comme la moisson, c'est recueillir le fruit du blé pour faire du pain, tiens, le fruit de la vigne pour faire du pain, tiens, le pain, le vin. Et nous voyons que déjà, hein, l'Eucharistie est présente, mais subrepticement, doucement, dans ce texte. La moisson, la vendange. Moisson, vendange, réjouissent les hommes. Ils se retrouvent ensemble au moment de la moisson, on se réjouit, comme à la moisson, comme le dit Isaïe. La moisson ou la vendange, on se réjouit. On se réjouit parce qu'on a travaillé ensemble, fruit de la terre et du travail des hommes, comme nous disons dans la prière juive de la bénédiction du pain. Fruit de la terre, fruit de la vie et du travail des hommes. Un an pour produire le blé, un an pour produire le vin, un an de travail humain. Où la nature et la culture se mettent ensemble pour faire fructifier, pour donner de la nourriture et de la boisson, c'est-à-dire pour faire vivre les hommes. Mais seul Dieu nous fait vivre. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure est venue de moissonner. La moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre. Et la terre fut moissonnée. Donc le fruit de la terre est engrangé. Rien n'est perdu du contenu. Oui, la vidange s'en va à la poubelle, mais rien n'est perdu du contenu. La terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel. Et cette abondance d'anges dit précisément que ce sont des réalités que chacune et chacun d'entre nous pouvons découvrir dans sa vie. Un autre ange sorti du temple qui est dans le ciel, et il faut pour ça être un peu dans le ciel avec l'ange, hein. Il tenait lui aussi une faucille tranchante, une serpette. Et un autre ange sorti de l'autel, il avait pouvoir sur le feu, et cria d'une voix forte à celui qui tenait la faucille tranchante, « Lance la faucille tranchante !» Et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. On reprend exactement, hein, en transposant moisson et vigne, hein, on reprend les mêmes refrains. Pour dire les fruits, c'est avec ces fruits de nos actes, de toutes nos actions, que va se faire l'Eucharistie. C'est la manière dont Dieu en Jésus-Christ, va s'unir à notre réalité humaine, pain et vin que nous avons produit ensemble et qu'il va transformer en son amour. C'est une perception très juste, mais en même temps un petit peu voilée de ce qu'est l'Eucharistie. Cette Eucharistie, ceci, mon corps, ceci, mon sang, ce n'est pas seulement les ingrédients du pain et du vin, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ceci qui est mon corps et mon sang. Je suis vraiment votre réalité la plus profonde. Je vous moissonne. Je vous prends, moi. Je vous fais fils. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre et il vendangea la vigne de la terre. Et il la jeta dans la grande cuve de la fureur de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville. Et il sortit du sang de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur 1600 stades. Qu'est-ce que c'est que cette vision sanguinaire ou sanguinolente? Et donc peut-être même Gibson s'est inspiré. Mais il s'est inspiré de l'image. Il n'a peut-être pas vu le sens de cette image. Évidemment, vous avez reconnu vraisemblablement le chapitre 63e d'Isaïe. Vous trouvez ce grand vengeur extraordinaire qui a été mis en statuette, surtout dans des statuettes et dans des vitraux aussi, dans ce qu'on appelle la vendange de la vigne. Le pressoir mystique. Vous voyez un Jésus qui est en train de piétiner le raisin. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous cite, excusez-moi, je vais prendre quelques minutes de plus. Je vous cite ce passage de apocalyptique, comme on l'appelle, donc de révélation, sur ce qu'on appelle la vengeance divine. Dieu se venge toujours en nous donnant le salut, en nous aimant plus. Quel est donc celui qui arrive des dômes? Et dômes signifie rouge. Qu'est-ce qu'il dit qui est rouge? De Bosra, en habit taché de pourpre, celui qui est si magnifiquement drapé et qui marche tout plein de force. C'est moi. C'est quoi? Qui c'est qui parle? C'est le prophète, évidemment, au nom de Dieu. C'est moi qui professe la justice et qui me montre et qui se montre grand pour sauver. Pourquoi te drapes-tu de rouge et te vêtu comme un fouleur au pressoir? Réponse à la cuve. J'ai foulé solitaire. Des gens de mon peuple, nul n'était avec moi. Alors, dans ma colère, je les ai foulés, je les ai piétinés dans ma fureur. Leur jus a giclé sur mes habits et j'ai taché tous mes vêtements. Car j'avais au cœur un jour de vengeance. L'année de ma rédemption était échue. La vengeance, c'est le rachat des hommes. Je regardais, point d'aide. Je m'étonnais, point de soutien. Alors mon bras me secourut et ma fureur me soutint. J'ai écrasé les peuples dans ma colère, je les piétinais dans ma fureur, et je fis ruisseler à terre leur jus. Mais j'en ai quelque peu modifié cette image de Dieu au pressoir des nations. Le jus de la vigne est souvent comparé au sang. Et c'est bien ce qu'il peut faire, ici même. Mais quel est ce sang? Les pères de l'Église le disent à souhait, c'est son propre sang. Il a mêlé notre sang, notre souffrance humaine, il a mêlé au sien. Et il a lavé nos robes dans son sang, dans le sang de l'agneau. Il a purifié notre sang. Dit en d'autres termes, en termes plus aseptisés, il nous a délivrés de notre enfermement dans ce qui fait les réalités concrètes, mais bornées, mesquines de notre existence mortelle. Et les 1600 stades, hein, ce sang qui monte, hein, et qui arrive jusqu'aux morts des chevaux, ce sang qui monte, c'est précisément cette présence de l'amour du Seigneur. 1600 stades, 4 fois 4 fois 100. C'est donc cet amour qui remplit l'humanité entière. La vie de toute chair est dans son sang. C'est la vie que Dieu nous donne. Vous voyez qu'il s'agit vraiment de notre réalité. Notre réalité nourrie par l'Eucharistie. Voilà où nous en sommes. Vous voyez que l'enjeu de ce chapitre est important. Nous nous arrêtons ce soir, je vous souhaite une sainte fête de Pâques, c'est-à-dire de vivre ce que nous venons de vivre.